Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Des clés pour vivre, troisième entretien cette semaine consacré à cette belle et grande figure de Saint Padre Pio avec pour intervenant au micro François Brunatou. Bonjour François,
bonjour.
Merci de votre fidélité. Votre père est décédé en 1965. Votre père était laïque et votre père a eu ce cadeau un peu extraordinaire, on peut le dire, en tant que laïque, jeune encore à l'époque, de vivre 3 ans à côté de Padre Pio dans ce couvent, donc une grâce particulière, vous pouvez le dire ainsi aujourd'hui.
Oui, surtout qu'il va vivre 3 ans dans la cellule voisine de Padre Pio, mais il restera en tout près de 6 années à Saint Giovanni, donc à côté.
Donc très proche de voilà, Padre Pio, de celui qui était son père spirituel, son ami, son frère pour qui il a travaillé. Nous nous trouvons dans ces studios de Lourdes, près de cette grotte Massabielle. Hier, vous avez évoqué Lourdes, un lien très fort pour votre père, Emmanuel Brunatou, avec Lourdes, vous allez nous raconter, et bien sûr Saint Padre Pio.
Déjà, il existe très peu de photos de mon père, parce que c'est un homme extrêmement discret, et majoritairement les photos qu'on retrouve de lui sont des photos qui ont été prises à Lourdes. Et effectivement, mon père va venir travailler aussi pendant un certain temps à Lourdes. Bon, on parle de l'après-guerre, hein, on parle de 46, où il va parler des mois. Il va passer plusieurs mois ici à Lourdes et il sera toujours attaché à Lourdes, et puis attaché pour une raison aussi particulière, puisque mon père citera dans ses cahiers privés que le Padre Pio lui avait dit que de toute manière, il aimait, lui, à venir prier au pied de la Sainte Vierge à Lourdes. Donc, voilà, était-il en train de prier avec le Padre Pio à Lourdes? Peut-être, mais en tout cas, je pense que mon père a été... Vous savez que lorsque mon père a dû quitter le couvent, il dira, on va lui demander aussi de saluer, d'embrasser aussi, saluer le Padre Pio un petit peu de manière un peu plus habituelle, parce qu'il avait l'habitude d'embrasser le bas de son habit. Et on va lui dire, non, tu embrasseras sa main ou autre, comme le font tous les autres, etc. Et mon père dirait, il va dire non, mon père dira, non mon père, parce que le sol où il passe, c'est le sol où il passe que je devrais baiser, car personne n'a reçu de lui plus que moi. Et personne, et parce que, pour moi, le Christ passe où il passe. Donc il y avait aussi cette... le Padre Pio l'a emmené aussi, mon père aussi, vers la Sainte Vierge, parce que c'est aussi le message du Padre Pio, c'est prier la Sainte Vierge. Et puis c'était ce message qui revenait en permanence de Padre Pio. Vous savez, le Padre Pio avait, quand il disait « passez-moi mon arme », son arme, c'était son chapelet. Donc on avait évoqué la question du nombre de chapelets que le Padre Pio disait par jour, mais il n'y avait pas sous son oreiller, il y avait 2 ou 3 chapelets qui étaient sous son oreiller. Il voulait être sûr d'avoir toujours un chapelet sous la main. Donc le Padre Pio, c'est pas... On n'aime pas le Padre Pio pour le Padre Pio. Le Padre Pio nous amène vers justement Notre-Dame des Grâces, puisque c'est aussi Notre-Dame de Grâce qui est l'église du couvent de Padre Pio, et nous amène vers cet amour de la Sainte Vierge. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il nous emmène avec ce message aussi, nous amène à Lourdes, parce que c'est l'Immaculée Conception. Donc c'est unique, c'est cette source vive aussi qui nous guérit de tout. Donc, et le Padre Pio, c'est vraiment ce saint aussi qui nous donne le bon chemin, et qui est un peu, malgré que c'est pas très respectueux envers lui, mais j'ai toujours tendance à dire, il est un peu comme le petit marchepied qui nous permet d'atteindre la Sainte Vierge, et de la Sainte Vierge, de toucher le cœur de la Sainte Vierge et d'arriver jusqu'à son Fils. Et je pense que c'est la question du Padre Pio, et le Padre Pio insistait toujours sur la nécessité, sur la communion des saints. Donc le Padre Pio, il ne faut pas se dire j'aime le Padre Pio parce que c'est que le Padre Pio. Il ne faut pas se tromper de sujet. On peut aimer le Padre Pio parce que on aime ses charismes, on aime sa grande humanité. On peut aimer on peut l'aimer comme intercesseur, puissant intercesseur aussi, mais il n'est pas, ce n'est pas une foi centrée sur lui. Ce n'est pas une question de foi, c'est une question d'amour. Le Padre Pio disait, il nous amène vers cette vérité de dire, votre prière doit être un cœur à cœur avec Dieu. Voilà. Et je pense que le Padre Pio nous amène à cette humanité pour dire que le bon Dieu, il est immensément grand, mais il nous fait cette grâce de venir à nos côtés et d'être, on peut l'approcher, on peut le toucher. Et je pense que si les gens venaient, justement, tant nombreux, des millions de personnes comme ça venaient vers le Padre Pio, ils reconnaissaient bien sûr l'intercesseur, mais c'est parce que quelque part c'était aussi le chemin, c'était un chemin de leur vie qui venait chercher.
Alors, Padre Pio, grande figure d'intercesseur, grande figure de confesseur, Padre Pio qui savait aussi lire dans les cœurs et dans les âmes, parfois peut-être attirer les âmes par ses charismes un petit peu aussi extraordinaires, on peut le dire aussi.
Je crois qu'il a eu, Padre Pio a eu finalement tous les charismes, enfin peu de saints ont eu, je ne sais même pas s'il existe dans l'église, des saints qui ont eu tous les charismes comme ceux du Padre Pio, puisque ça va de la bilocation, la vue dans les âmes, il y a même, enfin bon, tout était là. Mais je pense que c'est aussi parce que le Padre Pio est un don de Dieu qui nous a été fait, et le bon Dieu a choisi cette âme. Je ne sais pas si c'est dès sa conception, mais en tout cas très jeune, puisqu'il est révélé que le Padre Pio voyait son ange gardien, la Sainte Vierge et le Christ, et on parle de ça lorsqu'il n'avait que 5 ans. Donc c'est pas une sainteté, entre guillemets, tardive, c'est quelque chose, c'est cette âme que le bon Dieu, comme un diamant qui l'a poli, mais dès sa naissance.
Padre Pio aussi stigmatisé, ce qui le rend aussi parmi toutes les figures un peu particulier encore. On ne cherche pas un Saint Padre Pio extraordinaire dans cette série que nous lui consacrons, François Brunetto, un homme de Dieu, un cœur de prêtre brûlant, qui aime. Que disent ces stigmates dans la vie et le rayonnement de Padre Pio? Un rayonnement pour les âmes et pour le Christ.
Le Padre Pio aura d'abord des stigmates invisibles, enfin qui ont été visibles, et il a demandé au Christ de le lui retirer, c'est-à-dire qu'il ne soit plus, parce que il était, pour lui c'était une honte de porter les stigmates du Christ. Donc il a porté d'abord les douleurs. Si on veut dire, pendant des années, il aura ses stigmates invisibles. Et ça, en gros, peu de temps après qu'il soit ordonné prêtre. Et il va vivre, finalement, il va avoir donc ses stigmates visibles à partir de 1918. Donc on est le 20 septembre 1918, où là, les 5 plaies du Christ vont se révéler sur lui, qui sont... Alors, que les choses soient claires, les mains transpercées, les pieds transpercés et une blessure importante, donc au cœur. Et la particularité, c'est que certains prêtres, même, enfin certains capucins ou même médecins qui ont fait une analyse de ces stigmates, ont pu constater que s'ils exerçaient une pression avec le pouce et l'index sur ces plaies, ils arrivaient à rejoindre leurs doigts. Donc il y avait bien un trou dans la main. Mais de manière très étonnante, mon père l'écrira derrière dans la première biographie, parce que mon père écrira quand même la première biographie du Padre Pio en 1926. Bon, elle sera mise à
l'annexe. Vous en êtes fier hein, de ce père. Comment? C'est de l'admiration. Vous avez de l'admiration pour Emmanuel Brunetto, premier fils spirituel de Padre Pio?
De l'admiration, oui. C'est... Alors, la question, c'est que je pense que si derrière la question, c'est est-ce que j'idéalise les choses, parce que je me méfie beaucoup un peu des choses un peu qu'on va tourner un peu avec la psycho, il n'a pas eu son père, etc. Donc, je me méfie un peu.
Il n'y avait pas du tout de psychologie.
Non, c'est pas du tout le terrain sur lequel vous m'avez emmené, mais c'est pour les auditeurs. Je préfère quand même que les choses soient
claires.
Que les choses soient claires. D'abord, c'était l'histoire de mon père, finalement, j'ai vraiment creusé cette histoire de mon père que depuis 2009. Donc c'est, je viens de naître, hein, et en même temps, donc c'est des choses que j'ai recherché. Alors la fierté, bien sûr, mais une admiration, oui, et c'est à la fois de se dire, mais si seulement je pouvais dans 10 ans, en 10 ans de sa vie, remplir simplement la mienne. Tellement les rencontres, mais on est là aussi dans ces clins d'yeux, dans ces dons du ciel qui sont à un moment donné qui vous, et c'est ça que je reconnais, c'est ça aussi que je perçois dans la vie de cet homme qui est mon père. Je suis bien sûr très fier, mais
et vous pouvez être fier, et on en parle encore demain si vous voulez bien, de ce père. On fait mémoire un peu de ce travail et de celui qui était surnommé l'épée et le bouclier de Saint Padre Pio, et c'était votre père Emmanuel Brunato, et vous nous direz pourquoi il était surnommé l'épée et le bouclier. Je vous dis, François Brunato, demain à la même heure. Au revoir.
Merci.